affirmait autrefois. « Ne pas se croire digne d'une femme, c'est le commencement de la fin. » Lorsque aujourd'hui il pense, « Je ne me sens pas à mon aise devant elle. » Il se souvient de l'ancienne certitude et s'effraie de son humilité. Il aimerait pouvoir se dire « Elle n'est pas si pure que ça !» Mais elle l'avoue. Je reproche à Michel, peut-être, tout simplement, de ne pas voir que je suis une femme. Un autre jour, elle lui a dit « Je ne suis pas une sainte, Jean. » Elle ne lui avait jamais semblé si simple, si ingénue. Les femmes ne sont pas des saintes. Elles ne sont pas non plus toutes des filles. Pour un grand nombre de ses conquêtes, il a été celui qui corrompt, conscient d'ailleurs et fier de l'être. « Fais ta mijaurée, va, demain tu ne seras plus la même. » Et le lendemain, en effet, elles ne jouaient plus les innocentes, non. Elles étaient les premières à lui faire une gloire de son expérience et de sa cruauté. Mais Françoise, d'abord elle n'est pas une mijaurée, une noix blanche, mais une femme faite, et qui sait ce qu'elle veut. Ensuite, eh bien, il ne la désire même pas, ou il la désire trop. Les filles qu'on veut tout de suite prendre, elles n'ont que ça à donner. Le sourire de Françoise est une possession, sa démarche une aventure, et sa main, lorsqu'il la touche, plus nue qu'un sein. La promesse de son amour procure à Jean une joie que l'amour ne saurait excéder. Ils ne se sont pas une seule fois embrassés. Ils se disent « vous » comme des enfants sages. Mais elle ne refuserait pas de l'embrasser, ni d'être embrassée par lui. Elle attendait, ils attendaient tous les deux. Quoi ? La colère naît plus tard lorsqu'il l'a quittée. La volonté vient plus tard de la prendre dans ses bras et de lui dire « Mon petit, ne pensez-vous pas que nous avons assez joué ?» Et s'il retourne au magasin dès le lendemain ou le soir même, c'est pour le lui dire. Mais il ne le dit pas. Inexplicablement, la présence de Françoise le comble. Il s'interroge lorsqu'elle se tait. Le silence de Françoise est-il, comme le sien, une sorte de contrainte ou dans sa nature même? Maman lui dirait que les femmes se taisent pour que les hommes se posent ce genre de questions. De toutes les femmes, il l'admettrait. Non de Françoise. Ses yeux, ses lèvres vivantes, son visage tout entier, qui brille, proclame qu'elle ne joue pas. Et quand elle parle, elle lui paraît plus mystérieuse. S'il confronte ses rares confidences et les plaintes de Michel, il comprend que ni l'un ni l'autre n'ont menti. Bien qu'à première vue, on puisse croire que sont en cause des personnages et des faits différents. « J'aime être seule, » disait-elle, « être seule le matin surtout. Je vais me promener à cheval toute seule. Si je vivais au bord de la mer, j'irais tous les matins, ainsi le long des vagues. Les gens, l'avez-vous remarqué, les gens ne savent plus ce qui est beau. Ils n'ont pas le temps, Françoise. » Ce mépris, qu'il croyait facile, lui, le méprisant, l'irritait. Elle ressentait l'irritation de l'homme, s'irritait à son tour. « Plus le temps, qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle s'exaltait. « Il y a de la beauté partout, il suffit d'ouvrir les yeux. » Plus d'une fois, après l'avoir quittée, Il se demanda pourquoi il subissait patiemment ces discours. Elle semble ne pas y croire elle-même. Peut-être, en effet, l'enthousiasme de Françoise sonnait-il faux, elle en remettait, afin de me persuader qu'elle est heureuse, ou bien afin de s'en persuader. Jean s'attendrissait soudain. Il s'imaginait comprendre. Il a eu cette enfance tranquille, de gosse unique, entre papa et maman, des gens simples. Il a connu cette sorte d'avidité inquiète, à cause de la richesse de la vie qu'elle dit avoir si souvent éprouvée. Il comprend en tout cas qu'elle ait épousé Michel au lendemain de la guerre. Elle allait sur ses 23 ans. Ce n'est pas la faute de François si, transformé en facteur, le héros s'en était aigri. 7 ans de mariage et ne pas pouvoir prétendre à un amour commun. Voilà, pense Jean, pourquoi je ne me suis pas mariée. Vers la mi-avril, à son tour, pour montrer qu'il la comprenait, il s'est confié. Il a parlé d'Irène et du grand amour que c'était. Ne fallait-il pas expliquer Michou, puisque Françoise est trop discrète pour poser des questions de cet ordre. Ça s'est passé comme ça et je ne l'ai jamais revue. Jamais? Oh, Jean, quoi? Vous n'avez jamais cherché à savoir? Il grimace et perçoit que Françoise n'aime pas cette moue moqueuse. Il s'entête. Où la chercher? Elle part, elle fout le camp, elle abandonne son fils, et c'est à moi que vous donnez tort? Je ne sais pas, dit-elle. Et vous non plus, vous ne savez pas. Vous n'étiez pas là, après tout. Je ne veux pas dire que votre mère, peut-être tout simplement ne se sont-elles pas comprises, mais pour qu'elle ait fait cela, je pense qu'elle a dû beaucoup souffrir. Vous êtes idiote, dit-il violemment. C'est curieux, comme les femmes toujours s'entraident. Une exception pourtant, ma mère. Ce n'est pas elle qu'une femme pourrait tromper. Françoise a baissé la tête, elle la relève et le regarde. Elle dit doucement. Moi non plus, je ne défends pas les femmes. Mais elles ne sont pas toutes aussi viles que vous le dites. Pas vous, bien sûr, raille-t-il, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Par malheur, vous en êtes toutes persuadées d'être l'exception. Les yeux de Françoise sont sur lui, brillants, un éclair, elle les a fermés. Je sais, dit-elle, vous avez beaucoup d'expérience. Et tout à coup il a mal. Il se connaît, bête, moche. Il faudrait qu'il dise une parole, vite, qu'il fasse un geste. Mais le geste, il l'a fait. Il caresse la joue de Françoise. Il dit « Mon petit, je ne voulais pas. » Et la tête de Françoise est contre sa poitrine. Peut-être que, pour la première fois, ils viennent d'échanger un baiser. Il y a sur sa langue un goût de framboise, une vibration intense qui n'est pas du désir, mais toute semblable au passage écrasant d'une accélération à l'autre lorsqu'on dépasse les 4 G, le parcours du ventre au cerveau, le ploie là-bas, comme un homme frappé par la foudre, bien qu'il soit debout, encore plus grand qu'il l'a jamais été. Fin de la deuxième partie, avril. Troisième partie, mai. Ce 2 mai, pour la première fois, Jean peut travailler devant la fenêtre ouverte. L'air est frais, un peu, et grisant. Il y avait une lettre pour lui tout à l'heure au courrier, une lettre de Françoise, sa première lettre. Tout est premier, tout est neuf. C'est vrai que rien n'a été vécu. Rien n'a été vécu, mon enchanteur, de ce que nous n'avons pas vécu ensemble. Le tonitruant vacarme d'un réacteur à l'essai sous hangar éclate brusquement, tout aussitôt se brise. De la piste parvient à Jean le roulement caractéristique d'un vieil ouragan au départ. Bosch, sans doute. Il va traverser le champ de vision de Jean à toucher la fenêtre. Il brillera longtemps, très haut dans cette étendue bleue où ne sont d'autres taches que celles, harlequines, de la tour de contrôle sur la droite et blanches d'un nuage au loin. Temps 2,03. Altitude 3000. Vitesse 750. Régime 11000. Température de tuyère 650. Temps 3,07. Altitude 6000, etc. Quelqu'un qui le verrait sourire ainsi en reportant sur le compte rendu ses enregistrements de vol ne comprendrait pas que des chiffres puissent être si divertissants. Ils le sont cependant, au même titre que le bleu du ciel ou la lettre de Françoise. Descendre d'une altitude de 10 000 mètres et savoir qu'on la dépassera demain, cela donne une impression semblable à celle d'avoir bien fait l'amour et de savoir encore on peut aimer mieux. Aimer à chaque fois, comme le soleil se lève ou comme on ouvre sa fenêtre au premier vrai jour de printemps. J'ai presque peur, mon amour, quand je pense à tout ce qu'il reste à nous découvrir. Voilà pourquoi Jean sourit. Ce que Françoise écrit, il le pensait. Établissant le compte-rendu, il lui semble revivre leur première étreinte. Ou que, plutôt, il l'a revécu là-haut, seul, ficelé dans son cockpit, prisonnier du tableau de bord rectangulaire, incapable, en vérité, de penser à rien d'autre qu'au roll-roll fixé sur sa cuisse. L'illusion le divertit. Au début, elle n'était pas prête. Elle avait accepté trop vite de venir avec lui dans cette chambre. Ils n'étaient prêts, ni l'un ni l'autre. De la même façon, tout à l'heure, à l'instant de s'attaquer aux mâches, il a ressenti la peur. Non, pas la peur vraiment, mais comme une crainte de n'être pas à la hauteur, instant trop attendu. Et puis, ce changement brusque. Françoise, nue et longue, la chevelure tombée sur les épaules, une femme inconnue, pas encore désirée, qu'il pouvait prendre. Son regard sur elle n'était-il pas semblable à cet autre regard, également neuf, plus tard, vers le mâche-maître qui, pour la première fois, allait servir, seul compteur visible soudain dans le tableau de bord. Elle n'avait pas fait depuis des mois l'amour, mais il ne le savait pas. Il s'effrayait du visage crispé, du mouvement convulsif des mains, qui semblait vouloir repousser son corps. La pensée lui était venue. J'espère qu'elle n'est pas hystérique. Et plus tard, toute pareille, l'inquiétude à 20 000 pieds. Jusqu'où puis-je me permettre d'aller? Comment savoir si, dans ce mécanisme minutieux connu, mais non pas éprouvé, quelque chose n'est pas ou ne va pas se détraquer qui fichera tout par terre? Enfin, ici et là, le refus de discuter. Il n'est plus temps. Allons voir. L'altimètre indiquait 9 500 et le mâche-mètre 0,82 quand, brusquement, il bascula le poisson vers le sol. Renversement à gauche, pirouette, plongeon. Mâche 9 atteint. Le poisson ne tressaillait qu'à peine. Il avait annoncé pourtant « J'entre en compressibilité, choc du réacteur dans la queue ». L'inversion de réaction, très atténuée, n'apparut qu'à Mach 97, et l'avion fut au seuil de la première grande épreuve, étranger et ami, constituée d'un seul bloc et pourtant pénétré, soumis et libre. Ainsi, cabrée sous lui, Françoise était comme un serpent qu'on a pris par le cou et qu'on serre. Il la tenait entre ses cuisses plus entière qu'aucune autre femme, apparemment immobile et fermée, bien que pas un nerf de son corps ne participât, et que l'homme fût au milieu d'elle. Tout à coup, il cessa d'appuyer sur le manche, laissant l'avion reprendre son essor comme un bon cavalier relâche un peu les rênes au moment du saut. Et ce fut là. Le mach-mètre indiquait une chute imperceptible. 0,02, bien que l'altimètre ne dévia plus des 9000. Le poisson volait à l'horizontale à la limite du son. Combien de temps ont-ils couru ainsi sur l'aile étroite? La pression de Jean, très douce, se fondait dans le rythme de sa respiration. « Mon beau petit, » murmura-t-il, « Mach 97 de nouveau, Mach 975, il précisa pour la tour, dérapage net sur la gauche. » Frangeant la frontière invisible, il entrait et ressortait du bruit dans le silence, ce que Rozanov appelait « être sous la cascade », sensation comparable à celle qu'on obtiendrait en se bouchant l'oreille d'un doigt et en se la débouchant très vite. Paix et tumulte, lisière du chaos et de la mort, raffinement avant la joie de se fondre, dans l'absolu du silence. Longtemps après, lui sembla-t-il, la tour annonça. Double bang perçu. Le premier, en ligne droite, ne l'avait pas été, mais le pilote l'a ressenti dans ses muscles sans l'entendre. Et ce n'était pas une sensation nouvelle, l'achèvement plutôt des sensations qui l'avaient précédé. De l'effort à la récompense, il n'y a eu ni choc ni brisure, parce que l'effort était en soi une récompense, et que la récompense est comme une certitude de tendre plus avant l'effort. Durant le vol, pas une fois Jean n'avait pensé à Françoise. Sur le terrain, l'échelle brillante jetée entre le ciel et la terre, lorsqu'il a vu Rola courir vers lui pour l'accolade, et Rob courant aussi, et des bras levés, et des visages, seulement alors il s'est rappelé Françoise, disant « Oh Jean, jamais je n'avais connu cela, jamais. Tu as fait de moi une femme. » Il s'est connu doublement créateur. Il attend qu'on lui rende l'hommage qui lui est dû. Ce 2 mai est un jeudi et c'est l'instant où Michou se prépare à quitter maman pour aller au catéchisme. Mais il ne se décide pas à partir. Il a mis dans sa tête qu'il sortirait en manche de chemise. Maman ne veut pas. « Mais il fait chaud, maman. »« Non, pas encore, mon petit. Cet après-midi, peut-être. » Les grandes personnes, parfois, sont idiotes. Maman, elle-même, qui d'habitude ne l'est pas, au point de sembler aveugle, sourde. « Tu as vu le ciel, maman. Je vais cuire, moi. » Michou obéit. Obéir, le mot des faibles, le mot qui dispense d'entendre et de regarder. C'est à de tels moments que Michou, volontiers, donnerait sa fortune, ses soldats et ses billes, d'ailleurs ces jeux ne l'intéressent pas, pour être plus âgé de 3 ans ou de 4. « Très bien, » dit Michou, « puisque c'est comme ça, je ne sortirai pas, je n'irai pas au catéchisme. »« Ce sera comme tu veux, » dit maman. Michou boude, maman le laisse bouder, elle va ouvrir à Madame Picou qui arrive. Michou, la tête haute, déambule dans le salon, dans la salle à manger, monte au premier étage et va s'enfermer dans sa chambre. Le menton dans la main, il réfléchit. Le catéchisme, il s'en fiche bien. S'il ne tenait qu'à lui, il ne ferait pas sa seconde communion, pas plus qu'il n'eût fait sa première, si maman n'y avait tenu pour lui. Mais, à la vérité, il se fiche tout autant de sortir en veston ou en bras de chemise. Son veston n'est pas si mal. Il y a 3 semaines encore, c'était son veston du dimanche. Non, son inquiétude vient d'ailleurs. Il ne comprend pas que son père, qui ne croit pas en Dieu à ce qu'il dit, qui ne va jamais à la messe, qui vit vraiment comme si Dieu n'existait pas, ne lui est pas interdit d'aller au catéchisme et de faire ses communions. Est-ce qu'on ne penserait pas qu'il reconnaît ainsi implicitement qu'il a tort de ne pas croire en Dieu et qu'il vit mal? Implicitement est un beau mot. Michou ne le connaît que de l'avant-veille. Ou pire, à supposer que son père soit sûr d'avoir raison. N'est-ce pas à dire que ça lui est égal la manière dont je suis élevée? Mais, d'un autre côté, quand les parents s'occupent sans cesse de vous, comme maman, ils ne sont pas plus drôles. Un enfant sans mère, dit maman, un pauvre enfant sans mère. Si j'avais une mère, est-ce que les choses seraient différentes? Michou essaie d'imaginer les réactions d'une mère et ne le peut pas. Tout au plus comprend-il vaguement qu'elle ne serait semblable ni à celle de maman, ni à celle de son père. Mais en fait, une vraie mère, c'est l'inconnu. L'univers du rêve et de l'aventure qui ne finit pas, du rêve qui tourne au cauchemar. Sa mère, déjà, le souvenir de sa mère, a épousé tant de formes, jusqu'à la dernière en date, la dame, qui habite une maison. Aux portes de Melun, Michou veut bien que sa mère soit n'importe quoi, si ce n'est la femme qui louche de la photographie et de son rêve. Ainsi ne peut-il plus sortir du cercle fait comme un triangle, maman, papa et l'autre.